Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire en sciences de l'environnement à l'Université de Lausanne et figure engagée en faveur de l'écologie, a publié l'année dernière « Dévastation, la question du mal aujourd'hui », un livre qui réfléchit aux crises multiples que nos sociétés traversent aujourd'hui. Il sera présent à la Biennale du Livre le 12 août, de 10h à 14h, place de la Pilée. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Alors la question du mal est une vieille question qui peut sembler presque obsolète, mais après de longues décennies à travailler et lutter pour l'écologie, comment êtes-vous venu à ce problème et quels événements vous ont amené à y réfléchir dans notre actualité ?
J'ai souvent repris des questions classiques que j'ai interrogées un peu à l'aune de l'écologie. Je l'ai fait avec les risques, je l'ai fait avec la gouvernance, je l'ai fait avec d'autres sujets. Et puis, ben là, je le fais avec la question du mal, et vous avez raison, c'est une question très traditionnelle, enfin, elle est même consubstantielle à la philosophie. On pourrait même ramener toute l'histoire de la philosophie à une réflexion sur la question du mal, hein, qui commence avec la question du non-être, etc. Donc le mal, ça n'existe pas, c'est pas un principe qui existe en soi, mais c'est précisément le défaut du bien qui fait que le mal peut exister. Ça, c'était la posture tout à fait classique. Alors, moi, de mon côté, j'ai essayé de me prendre du champ par rapport à cette posture classique et, comme vous l'avez dit, précisément d'avoir dans le viseur la question écologique.
Et pour ça, vous êtes notamment aidé de l'anthropologie, c'est-à-dire de conception non européenne du mal. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Alors oui, c'est un livre qui veut avoir une perspective relativement relativiste, si j'ose dire. La première idée, c'était de désenclaver la question du mal par rapport à la question morale au sens des mœurs. J'ai conçu le mal comme en fait une puissance de destruction, de destructivité. Et donc le mal, c'est très empirique, hein, c'est le fait de détruire. Et effectivement, la destruction par excellence, c'est ce qui s'appelle le crime. Et donc, ma première définition du mal, elle est liée à la notion de crime, c'est-à-dire porter atteinte à l'intégrité d'autrui, porter atteinte... Et puis, petit à petit, on va voir que du crime, on va passer au crime environnemental. Et en fait, la définition, par exemple, chez Sade, chez le marquis de Sade, dans Juliette, il fait dire à Madame de Clerville, un des personnages donc, qui dialogue dans ce texte... Il fait définir ce qu'est le mal absolu, le crime parfait, le crime absolu, plus exactement, pas le mal absolu, le crime absolu. Le crime absolu, c'est celui dont les dégâts, dont la destructivité continuerait largement après l'acte lui-même, voire après la mort de l'acteur, du criminel. Et en fait, c'est une définition parfaite du crime environnemental.
Vous relisez la question écologique à cette aune de la question du crime, et donc, d'une certaine manière, la destruction de la planète devient... le crime parfait, le crime absolu.
Alors, voilà, donc on part du crime au sens intersubjectif du terme. On montre que, alors contrairement à ce que nous dit toute la théorie de la guerre, on montre en quoi crime et guerre sont tout à fait, absolument pas étanches, au contraire, totalement poreux. Une guerre, ça présuppose une espèce d'affaissement moral antérieur, et puis ça a des conséquences sur la moralité au sens de l'interdit de la destruction, de la destructivité extrêmement importante. Et puis de la guerre, alors on peut aller jusqu'à la guerre thermonucléaire. Donc là, effectivement, une guerre thermonucléaire, c'est à peu de choses près la fin de l'humanité avec l'hiver nucléaire qui s'en suivrait. Et puis ensuite, je montre en quoi, eh bien, en fait, ce qu'on appelle, mal nommé d'ailleurs, la crise écologique, en fait, les effets du consumérisme à grande échelle et à haut niveau, eh bien aboutit à peu de choses près à la même chose que une guerre thermonucléaire, simplement c'est légèrement plus lent.
Vous mettez ensemble toutes les crises qu'on traverse et vous ne séparez pas des problèmes comme la guerre en Ukraine avec Poutine de l'abandon de la transition écologique par Donald Trump. En fait, c'est un seul et même problème.
Absolument, c'est un seul et même problème. Et alors, c'est très curieux, mais finalement, pour moi, ça ne me surprend pas, mais de voir à quel point l'affaissement moral des sociétés, Le niveau de violence qui monte dans nos sociétés, le niveau d'injustice qui monte dans nos sociétés, les inégalités en termes de répartition de la richesse et la crise climatique. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, ça va totalement ensemble.
Oui, donc ça permet aussi d'élargir la lutte écologique qui n'est plus simplement une lutte pour la nature et pour les écosystèmes, mais qui devient une lutte contre toute forme d'inégalité, contre toute forme de violence.
Absolument, c'est totalement inséparable. Quand on regarde les effondrements de sociétés dans l'histoire, ils ont toujours partie liée aux inégalités, et parfois ces inégalités, le surconsumérisme de certains peut détruire, accélérer la destruction de certains écosystèmes. Ça va vraiment ensemble. En fait, les questions sociales et les questions écologiques, c'est comme le recto et le verso d'une même feuille de papier.
Justement, comment à partir de ce constat d'un mal radical, d'un crime absolu, peut-on s'opposer à lui ? Parce qu'il peut sembler difficile d'arrêter la machine de guerre russe ou la destruction des écosystèmes.
Oui, c'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Bien, en fait, alors c'est un petit peu compliqué dans le livre, mais j'ai une forme d'espoir. C'est-à-dire déjà dans la conclusion du livre, avec la lecture que j'essaie de produire, des expériences de mort imminente, on a là quelque chose de tout à fait curieux. Effectivement, alors par les religions, on va prendre par exemple la théologie chrétienne, l'approche du mal, alors c'est vraiment un problème épineux, ils arrivent très difficilement à sortir, puis on finit par dire, ben, finalement, Dieu a deux mains, hein, la main droite, c'est le Christ, et la main gauche, c'est le diable. Le seul problème, et on le constate dans l'histoire, c'est que Dieu a plutôt tendance à être gaucher. Effectivement, c'est pas très agréable. Alors, Dans les religions, on n'arrive jamais à avoir un bien qui ne soit entrelacé avec un mal. On pense par exemple à la critique que Nietzsche fait du christianisme, et il relève un passage dans la Somme théologique où saint Thomas nous dit des béatifiés qu'ils ont un regard sur les cruautés imposées à ceux qui sont condamnés à l'enfer. Donc on voit bien que pourtant la béatitude, le paradis terrestre, on devrait se débarrasser du mal. Ben, pas du tout. Ça reste vraiment lié. Et effectivement, l'imaginaire humain n'a cessé de lier. On voit ça avec les questions de sorcellerie, de chamanisme, etc. Mal et bien sont toujours entrelacés. Or, dans les expériences de mort imminente, alors, évidemment, les progrès de la médecine ont fait que ce genre d'expérience s'est surmultiplié. Il peut se produire dans toutes les cultures, à tous les âges, etc. Et on a fini par repérer une espèce de parcours. Alors, parfois, les gens ont la mémoire de la totalité du parcours, d'autres fois que certains aspects. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que il n'y a pas, si vous voulez, c'est une espèce d'être de lumière qui vous accueille, peu importe. Hein. Mais en fait, bah, cet être de lumière, il n'est pas remplacé de temps en temps par un être au pied fourchu et avec un trident dans la main. Non, en fait, quand ça se passe mal, c'est à peu près 10% des expériences de mort imminente, on est quand même bloqué dans une antichambre. Assez cauchemardesque, mais c'est pas du tout l'inversion du bien au mal de la figure qui vous accueille dans les récits dominants. Donc on a dans l'imaginaire humain, alors évidemment niché assez profond, puisqu'il n'apparaît que lorsqu'il y a ce genre d'expérience, on a une espèce d'univocité du bien. Donc ça, oui, c'est
donc
le premier élément.
Un bien absolu qui viendrait faire une sorte de réponse au mal absolu.
Un bien absolu qui nous montre que l'humanité n'est peut-être pas condamnée au pire parce qu'elle a en elle, quelque part, cette espèce de présence et qui est pourtant contradictoire avec tout ce que les cultures nous montrent. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, alors je relis ça, en fait, à ce qui s'est passé avec le néolithique. Alors attention, le néolithique, c'est des milliers d'années. Mais on a eu, alors tout d'abord, l'affirmation, la domination des êtres humains sur la nature via l'agriculture, même si des gens comme Stepanov nous montrent que pendant très longtemps, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais au bout du compte, c'est bien ça qui apparaît. Puis l'élevage, d'une part, et la culture, de l'autre, c'est une forme de domination de la nature qui s'est souvent, d'ailleurs, dans les mythes, exprimée par la violence. Assez étonnant. Eh bien, cette domination-là, qui est tout à fait nouvelle, qui n'apparaît pas apparemment avant le néolithique, eh bien, en fait, elle est simultanée avec l'affirmation de deux autres dominations qui étaient probablement là. L'une, c'est celle des riches sur les pauvres via l'esclavage, qui, pas tout de suite, hein, mais au bout de certain nombre au bout du déploiement de la révolution néolithique, presque partout, les sociétés, on va passer des communautés agraires à des empires agraires esclavagistes. Il va rester des communautés agraires. Et cette tendance, elle est là partout, quel que soit le lieu. Évidemment, alors parfois en des temps qui vont être très différents. Et puis, on a le patriarcat. On ne peut pas dire qu'il y avait égalité entre les sexes au paléolithique, c'est absurde. Mais en tout cas, il y a une espèce d'accentuation de la volonté par les mâles de dominer les femmes qui s'affirme avec ce qu'on appelle le patriarcat. Et donc, je vois, si vous voulez, dans ces trois dominations, le moteur de la destruction.
Oui, donc si je vous suis, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage à grande échelle qui a amené une domination de l'homme sur la nature, qui a ensuite amené par effet cascade la domination de l'homme sur la femme et la domination du riche sur le pauvre. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Parce qu'on ne va pas abandonner tout simplement l'agriculture.
Certainement pas. En fait, c'est l'agriculture classique. Alors évidemment, même dans les formes anciennes, on va trouver d'autres choses. En fait, ce qui caractérise l'agriculture, c'est le fait de vouloir produire sa nourriture en allouant un même espace à une seule espèce.
Donc la monoculture.
La monoculture, ce qui est vraiment le cœur de l'agriculture, même si assez vite on aura des expériences d'agroforesterie. On a des formes de permaculture bien avant qu'on les invente au XXe siècle. Mais c'est toujours resté minoritaire, ça s'est jamais développé. Et en fait, toute l'histoire de l'agriculture va surrenforcer cet aspect mono et on va finir par arracher les raies, on va avoir des surfaces énormes, etc. Et ensuite, on va être condamné à un système totalement artificiel avec des intrants divers et les fameux pesticides qu'adore le sénateur Duplomb, etc. Donc, on a tout ça. Or, on réinvente en fait, mais on affirme énormément un principe différent avec l'agroécologie au XXe siècle. Et donc, on a l'idée déjà de ce que pourrait être un système agricole qui ne serait plus un système conventionnel, monospécifique, mais au contraire, qui jouerait sur la nature intrinsèquement pluraliste des écosystèmes. Où, au contraire, les différentes espèces se complètent les unes les autres. Et puis, bien, effectivement, on a aujourd'hui une revendication très très forte contre les inégalités. Et on a une contestation de la domination masculine qui s'est hyper renforcée ces derniers temps, même si elle suscite une espèce de virilisme et de masculinisme de réaction avec les Poutine, avec les Trump, avec les Xi Jinping, etc.
Donc, est-ce que ça veut dire que malgré tout, on est sur la bonne voie ?
Bah, en tout cas, on est sur les deux.
Okay.
La voie majoritaire nous amène plutôt à la catastrophe, mais on voit qu'il y a peut-être la possibilité d'une bifurcation de l'histoire de l'humanité, tout simplement.
Très bien. Et comment est-ce qu'à notre échelle, on peut participer à cette bifurcation ?
En étant le moins idiot possible, c'est déjà pas mal.
Et ben justement, pour revenir un petit peu à notre échelle et à l'île Dieu, donc l'île Dieu est l'une des victimes de ce mal radical d'une certaine manière, puisqu'on a l'érosion des côtes, mais aussi l'urbanisation galopante. Et donc je me demandais, qu'est-ce que cette situation vous a donné à penser ?
Alors une île, c'est toujours très intéressant, parce qu'une île, pour le coup, puisqu'elle est bordée par la mer, alors il faut se méfier, hein, les écosystèmes sont pas poreux, ils échangent les uns avec les autres. Par exemple, la forêt, sans la lisière et sans les animaux autour, tout un tas d'apports, etc., ça n'existe pas. Mais une île, c'est une figuration assez simple de ce qu'est un écosystème, puisqu'elle est bordée par les côtes et par la mer. Et puis on est à plus petite échelle, on voit mieux, on comprend beaucoup mieux les choses. Puis évidemment, par rapport à là où j'habite, à Lausanne, il y a quand même un peu plus de nature à l'île Dieu que dans la rue où je suis
oui.
Le reste de l'année.
Et justement, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans le cas de l'île Dieu, c'est qu'on est face à une forme de paradoxe, parce que l'économie illaise repose sur un patrimoine naturel et historique qui, en fait, est de plus en plus menacé par le développement de cette économie. Et dans ce cas, où est-ce que serait la bifurcation ?
Alors, quand on est touriste à l'île Dieu, on est dans le paradoxe, hein, parce que le tourisme n'est possible que parce qu'on importe de l'eau, que parce qu'on importe de la nourriture, etc. C'est-à-dire que s'il fallait fonctionner de manière écosystémique, un peu comme une espèce de biorégionalisme à l'échelle de l'île, peut-être que ni vous ni moi ne serions là. Donc c'est tout le paradoxe de la modernité, on est sans cesse empêtré dans nos contradictions. On ne peut pas y échapper de façon radicale, on peut simplement grignoter des comportements plus favorables, tisser des liens plus sympathiques que les liens masculinistes.
Et est-ce que l'île Dieu est un bon terreau pour ça, vous trouvez ?
Bien, l'île Dieu, avec cette contradiction que je viens de souligner, c'est un lieu de rencontre intéressant. On peut rencontrer des gens qui sont confrontés à des problématiques très différentes, qui ont des soucis très différents. C'est un lieu de villégiature, effectivement, aussi pour un certain nombre d'auteurs. Ça n'est pas possible sur la modernité. Il faut que les choses soient claires. En essayant de détruire le moins possible, on en profite.
Et ben justement, vous parliez de rencontres. Et ben pour vous rencontrer, Dominique Bourg, et découvrir de nombreuses autres facettes de votre travail, c'est rendez-vous le 12 août de 10h à 14h, place de la Pilée, pour la Biennale du livre de l'île Dieu. Donc je vous rappelle le titre du dernier livre de Dominique Bourg, Dévastation, la question du mal aujourd'hui. Je tiens également à remercier une île des auteurs et sa présidente Marie-Laure de Cazotte pour l'organisation de cet événement et de ses interviews. Merci beaucoup, Dominique Bourg.
Merci à vous.